France Info.
Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Avant d'en venir au discours d'Emmanuel Macron hier sur l'Europe, on va revenir sur ce qui s'est dit dans la presse ce matin. Éric Ciotti, le patron des Républicains, se dit prêt à une forme de privatisation de la SNCF. Je cite évidemment, « Nous ne pouvons pas continuer avec une entreprise qui coûte autant, avec une telle culture du blocage et de la grève. » Voilà ce que dit le patron de la droite française. Vous avez été ministre des Transports. Privatiser la SNCF, c'est une bonne idée ou pas ?
Non. Pour être clair, c'est une idée absurde, dangereuse. C'est un grand service public, le service public ferroviaire. Et j'observe là aussi, au-delà des effets de manche du moment, une contradiction fondamentale. J'ai été ministre des Transports pendant 18 mois. Je crois qu'il n'y a pas eu une semaine, pour ne pas dire une journée, au cours de laquelle je n'ai pas reçu de députés LR comme d'élus de tous bords, des demandes de réouverture de lignes, de mettre plus de trains. Or, ces lignes ne sont pas toutes, c'est la fierté du service public et le principe du service public aussi, des lignes rentables. La privatisation, faut être clair, c'est une logique de rentabilité. Notre service public ferroviaire, il rend service à des millions de Français, parfois sur des lignes qui marchent très bien, tant mieux, ça irrigue
tout le réseau. C'est un totem de la droite, c'est quoi l'idée ?
Écoutez, je crois que dans le moment, j'imagine que c'est en réaction à l'accord qui a été négocié au sein de l'entreprise, mais...
On va rappeler ce que c'est que cet accord, oui. Clément Beaune. Hein. Quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont signé avec la direction, c'était lundi, un accord qui permet d'éloigner la menace d'une nouvelle grève, mais des contrôleurs, mais au prix d'un avantage conséquent en matière de retraite, avec un départ anticipé avantageux pour certaines catégories. C'est ce que Éric Ciotti qualifie de pur scandale.
Il faut faire la part des choses. Cet accord, je ne suis plus responsabilité, il m'a surpris, un peu choqué. Parce qu'on peut avoir du dialogue social dans l'entreprise, mais je crois qu'il faut garder, quand on est une entreprise publique, qui reçoit des soutiens de l'État et des collectivités publiques, une forme d'équité, d'esprit d'équilibre, de justice. Je n'ai pas les détails exacts de cet accord qui s'est fait dans l'entreprise, mais je ne suis pas sûr qu'on soit dans une logique d'équité et d'équilibre.
Vous ne l'auriez pas validé en tant que ministre des Transports, parce que le PDG de la SNCF s'en est félicité.
Oui, mais la SNCF est une entreprise public, mais c'est une entreprise qui a sa direction et ses syndicats. Ensuite, on peut avoir un avis sur la chose et on peut avoir cette exigence d'exemplarité.
Parce qu'à la fin, c'est les finances publiques qui vont compenser un accord d'entreprise.
Non, c'est pas les finances publiques qui vont compenser directement, mais ça peut être l'usager qui prend le train. Et donc, moi, je me suis battu, je sais que mon successeur, Patrice Vergriete, aussi, pour qu'on ait des tarifs de train qui ne soient pas exorbitants. C'est important pour le service public, c'est important pour la transition écologique, donc il faut garder cet équilibre. Mais déduire de cela... Je le dis comme je le pense, que cet accord ne me paraît pas satisfaisant. Mais déduire de cela qu'il faut privatiser la SNCF, c'est déconnecté, c'est absurde. Et
enfin,
je pense qu'en plus...
Une partie, hein, il dit que l'État doit conserver les missions de service public. Il dit ça dans l'opinion.
Bah, très bien, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on privatise les lignes qui marchent et que les lignes qui ne marchent pas, on ne les privatise pas. Bon, bah, aujourd'hui, les lignes qui marchent, elles aident le reste du réseau. Quand vous prenez un TGV, ça n'est pas subventionné. Quand vous prenez une ligne intercité entre Paris et Limoges, c'est aidé. Et c'est bien. Et c'est aussi de la solidarité nationale. Donc, il faut que tout le monde garde un peu la raison. On ne privatise pas la SNCF. En tout cas, moi, je m'y opposerai comme citoyen, comme député de toutes mes forces. Mais qu'on garde le sens de la justice et de l'équilibre, c'est aussi la responsabilité de cette entreprise publique dans ses accords sociaux.
La SNCF, le prix des transports, évidemment, sujet très important et très quotidien, très concret pour les Français. Autre sujet très concret, le logement, avec notamment une crise du logement qui se cristallise autour d'une crise de l'emploi. Ce matin, la patronne du groupe Nexity était sur France Info, Véronique Bédag. Elle annonce 502 suppressions de postes dans son groupe et elle affirme que finalement, le gouvernement n'a pas forcément bien réagi face à la crise financière. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement, puisque vous étiez aux affaires il n'y a encore pas si longtemps, vous étiez notamment au sein de ce ministère de la transition écologique, quand bien même vous n'étiez pas en charge du logement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le gouvernement a fermé les yeux sur la crise immobilière ?
Non, je vous confirme, en effet, je n'ai pas été ministre de tout. J'étais ministre des Transports, c'est une lourde responsabilité, je n'ai pas été ministre du logement, mais le gouvernement a réagi depuis plusieurs mois face à une crise du logement qui est d'abord une crise financière. C'est la hausse des taux d'intérêt qui a créé des conditions de financement pour les investisseurs et donc de difficultés à construire des logements très importantes et pas qu'en France. Je ne vais pas rentrer dans le détail des mesures, je n'en suis pas le spécialiste, mais il y a eu des réponses dès le début de l'année 2023.
La patronne de Nexity pense que ce n'est pas du tout suffisant et que là, la crise s'amplifie.
Mais il y aura sans doute des réponses encore de moitié. La solution, elle est très simple, il faut aider à construire. Il faut aider à construire, produire et produire des logements parce que c'est en construisant et en produisant des logements, c'est la responsabilité de l'État et des collectivités parce qu'on sait que souvent... Je le vois sur le terrain, ce sont parfois des réticences locales, parfois des maires, qui freinent pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais la construction de logements. Donc c'est, je crois, un travail collectif.
Clément Beaune, on s'attend ce soir à une dégradation de la note de notre dette souveraine par les agences de notation Moody's et Fitch. Ça veut dire quoi derrière concrètement? Davantage d'économies à trouver et plus de serrage de ceinture pour les Français?
Non.
C'est ça la perspective?
Non, attendez, il faut être clair. Les agences de notation, elles font leur travail. Hein. Leur travail, c'est des agences privées qui font des évaluations et c'est d'ailleurs encadré par la loi. Bon. Mmh. Elles vont donner un avis, comme elles le font régulièrement.
C'est une note même.
C'est une, oui, une note. Mmh. C'est un paramètre important. Bon. Mmh. Est-ce que ça aura un impact? D'abord, je ne connais pas la notation. Est-ce que ça aura un impact? En général, les marchés financiers, le coût de la dette, ils anticipent ces choses-là et on ne voit rarement des espèces d'à-coups ou de dégradation des conditions de financement de la France, qui reste un pays solide, reconnu comme tel, attractif. Il ne faut pas faire peur inutilement aux Français.
Vous tentez de réactiviser avant le verdict.
C'est un peu un coup dur politiquement, c'est quand même un coup dur
politiquement. Mais ensuite, vous savez que certains instrumentalisent politiquement, j'ai aucun doute là-dessus. Mais notre stratégie de finances publiques, elle n'est pas indexée sur ce qui va se passer cet après-midi et sur telle ou telle notation. Qu'il faille faire des économies, c'est pas parce que les agences dégradent ou pas une note, c'est parce qu'on en a besoin. On en parlera, j'espère, de l'Europe dans quelques instants pour des questions de souveraineté de notre pays. Parce qu'un pays qui est trop endetté, un pays qui a trop de déficits, c'est un pays qui, à terme, augmente les impôts, casse la croissance, réduit ses services publics. Je crois que personne ne veut ça pour la France. Moi, je ne le veux pas. Et donc, il faut anticiper, mais dans le bon ordre. On ne réagit pas par des coups de volant à une agence de notation.
Sans parler de coups de volant, est-ce que ça ne vient pas sanctionner des années où finalement les finances, les réductions par exemple des dépenses publiques, la bonne gestion financière n'était peut-être pas la priorité de l'exécutif?
Mais si on dit que ce n'était pas la priorité de faire des mesures d'économie par exemple pour la période Covid, on l'assume complètement. Et d'ailleurs, tous ceux qui donnent aujourd'hui des leçons de bonne gestion, non seulement n'ont pas contesté ces dispositifs Covid, mais depuis veulent qu'on dépense encore plus, y compris les LR, qui n'ont eu le cesse de demander, sur le carburant ou d'autres choses, des aides supplémentaires. Donc il faut un peu de cohérence. Qu'on soit dans une période, ça n'est plus la crise Covid, ça n'est plus le quoi qu'il en coûte, où il faille faire des efforts. Bruno Le Maire, le gouvernement, le disent de longue date. Il faut faire ces efforts sans une accélération délirante, avec du calme, de la sérénité, en construisant le budget pour 2025, où il y aura des mesures d'économie, bien sûr, mais sans casser. C'est pas l'austérité, c'est pas la rigueur, nos services publics.
Le 8-30 France Info, Benjamin Sportouche, Jean-Rémy Baudeau.
On est avec Clément Beaune, député de Paris, porte-parole de la campagne Renaissance aux européennes. Clément Beaune, hier, dans son discours sur l'Europe, Emmanuel Macron a affirmé, je le cite, que nos valeurs, notre culture, étaient de plus en plus menacées. Mais quelles valeurs exactement et par qui? L'extrême droite, c'est elle qui était visée, l'extrême droite française?
Notamment, mais c'est plus large que ça. Il y a un modèle européen, un modèle social, un attachement au service public, à l'égalité, à la liberté. Il y a une civilisation européenne ancienne à laquelle nous sommes attachés. Et ces valeurs sont attaquées dans le monde. On croyait, peut-être un peu naïvement, européens, occidentaux, après la chute du mur de Berlin, ces 30 dernières années, que c'était ce qu'on avait appelé la fin de l'histoire, c'est-à-dire la démocratie allait s'imposer naturellement partout, il n'y aurait plus de conflits, le doux commerce allait régir le monde. C'est pas ça qui se passe depuis longtemps, mais ça s'accélère et ça s'amplifie. La guerre est de retour sur notre continent, la Chine est une puissance qui, sur le plan commercial, est de plus en plus agressive. Les États-Unis, on a connu un mandat de Donald Trump, et c'était dur pour nous, Européens, il y a 4 ans. Peut-être qu'on va le connaître de nouveau, il faut l'anticiper, au mois de novembre prochain. Bref, nous sommes dans un monde de conflits, de brutalité, de terrorisme, de menaces en tout genre.
Mais l'Europe est telle, quand le président dit ça, est-ce qu'il n'y a pas une dramatisation à des fins électorales?
Mais pas du tout.
D'abord, Clément Beaune, à 6 semaines à peine du scrutin.
Je crois qu'on peut débattre de beaucoup de choses ou nous reprocher beaucoup de choses, reprocher à la majorité présidentielle, au président de la République, de se découvrir un Européen inquiet et ambitieux à la fois. Franchement, ce serait malhonnête. Le président de la République s'est engagé depuis le premier jour de son engagement politique, en fondant un mouvement politique, en étant candidat 2 fois à la présidentielle, sur l'Europe. On nous l'a parfois reproché d'ailleurs. On était très seuls à défendre le projet européen, à faire des constats qui sont lucides et difficiles, mais pas à répondre par la résignation ou le tout casser que proposent les extrêmes, mais par la réforme de l'Europe. Et ce qu'a dit le président hier à la Sorbonne pour la deuxième fois, c'était un symbole important, c'est qu'il avait donné rendez-vous aux Français en 2024, dans son premier discours de la Sorbonne, pour faire un bilan. Ce bilan, je le revendique, je l'assume, j'en suis fier, il est extrêmement positif. L'Europe a changé sur beaucoup de choses. Mais pendant ce temps, le monde est devenu plus dur et a lui-même accéléré. Et donc l'Europe doit amplifier, accélérer ses changements. Le président, il a fait beaucoup de propositions pour l'Europe pour l'horizon 2030. Il n'a pas été à courte vue ou à petit horizon électoral, je crois que chacun peut le vérifier.
Alors voilà ce que dit Emmanuel Macron, mais de ce côté, par exemple, le Rassemblement National dit que c'est l'immigration incontrôlée qui menace les valeurs européennes.
Mais ce qui menace les valeurs européennes ou surtout le fonctionnement de l'Europe, c'est les anti-européens qui, de longue date, ont voulu faire n'importe quoi à notre continent. Et redisons-le, heureusement qu'il y avait des pro-européens. C'était pas facile qu'on dit on prend pas le vaccin russe, on prend le vaccin scientifiquement validé et on le produit en européen, qui ont dit on fait la relance européenne, qui est allé convaincre l'Allemagne qu'il fallait ensuite pour chacun de nos entrepreneurs, chacune de nos entreprises, faire un plan de relance massif avec un emprunt commun, il faut quand même le rappeler, ce sont les pro-européens, c'est le président de la République, c'est la majorité présidentielle, c'est pas le Rassemblement
National. Donc l'Europe aujourd'hui,
qui est des menaces.
Macron, elle fonctionne bien.
Elle fonctionne pas de manière satisfaisante, elle fonctionne mieux qu'il y a 7 ans. Je vais pas vous dire que tout va bien, mais quand tout va pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut consolider les réformes qu'on a déjà menées, les amplifier. Et que proposent les extrêmes, et notamment l'extrême droite ? C'est soit de tout casser, soit de désobéir, soit de tout arrêter. Et si on avait écouté M. Barnier, je prends un exemple puisqu'il parle d'immigration, de contrôle des frontières. Le président l'a assumé dans la présidence française de l'Union européenne, mieux contrôler les frontières de l'Europe, et hier encore. Mais ils étaient contre cette agence Frontex, les gardes frontières aux frontières de l'Europe qui aident à lutter contre les passeurs et l'immigration clandestine. Ils ont voté contre, chacun peut le vérifier, à l'extrême droite, tous les budgets de l'agence Frontex. Maintenant, ils nous disent en fait, c'est super Frontex. Bon, on peut toujours se convertir tardivement. Ils ont même recruté le directeur qui s'est fait renvoyer de Frontex. Donc, je veux dire, il faut quand même, quand on a des choix aussi importants à faire, regarder non pas les 30 ou 40 dernières années, mais les quelques derniers mois, les quelques dernières années pour savoir quels ont été les bons choix. Et je pense qu'on a fait les bons choix fondamentaux pour l'Europe. On a mis une taxe carbone aux frontières pour le commerce. On a mieux contrôlé notre immigration par l'Europe. Il faut aller plus loin sur la question de la défense, sur la question du commerce. Mais je crois avec un bilan qui parle aussi pour cette crédibilité et cet engagement européen.
Vous êtes actuellement dans les sondages à plus de 10 points derrière le Rassemblement National. Et Jordan Bardella, vous l'avez dit, la tête de liste du Rassemblement National, a estimé hier qu'Emmanuel Macron est intervenu directement dans la campagne et devra donc, je le cite, « en assumer les conséquences en cas de désaveu », autrement dit dissoudre l'Assemblée nationale. Et les Français sont aussi une très large majorité, 61% d'entre eux, à estimer qu'une défaite nette de la liste Renaissance, votre liste, serait un échec personnel pour le président et qu'il devra changer significativement d'orientation politique. Donc il faut en tirer les conséquences.
Moi, je ne tombe pas dans cette confusion des genres et des valeurs qui me paraît très dangereuse démocratiquement. Pas seulement l'extrême droite, mais notamment l'extrême droite nous explique tous les jours que c'est une élection nationale. Il y a 450 millions d'Européens qui vont voter le même jour, le 9 juin, qui vont décider pour 5 ans ce qu'on va faire en matière agricole, en matière écologique, en matière de commerce, en matière de défense. C'est une fois tous les 5 ans. On peut peut-être, au lieu de dévoyer cette élection, ce qui, je pense, est profondément choquant et profondément antidémocratique, dire quelle est la question posée, qu'il y ait des mécontentements face à ce que fait le gouvernement sur telle ou telle chose, qu'on n'aime pas la majorité présidentielle ou le président, c'est une chose. Mais qu'on vote sur la question posée et sur les projets européens. Il a fallu attendre, ce que M. Bardella reproche au président de la République de s'être exprimé, que précisément Emmanuel Macron détaille un projet pour l'Europe de 2030, un projet présidentiel, pour que, tout soudainement, il trouve un programme et réagisse.
Enfin, il le fait à un mois et demi de la campagne, le président de la République, il aurait pu le faire il y a quelques mois.
Mais est-ce que le président de la République a régulièrement parlé d'Europe, y compris au début de l'année sur la question ukrainienne ? Est-ce qu'au cours de la présidence française de l'Union européenne, il a eu des grands discours européens ? C'était il y a encore quelques mois. Honnêtement, on peut être d'accord ou pas d'accord, moi je veux bien faire du projet contre projet, mais dire que le président et la famille politique à laquelle j'appartiens auprès de lui découvre l'Europe, ce serait un peu fort de café,
non, mais
ce serait un
mensonge. Si on vous entend bien, si effectivement la liste Renaissance arrivait avec un score très faible, comme c'est en train
de se... Vous voyez, on n'est pas encore en train de parler du projet et on parle déjà d'un résultat hypothétique. Moi, mon combat, je porte-parole de cette campagne, vous l'avez dit, l'Europe c'est mon combat d'une vie, c'est d'abord que les choses se passent bien pour notre liste, je le défends le 9 juin, et ça, on est à 43 jours, je crois, d'élection. Beaucoup de Français ne savent pas encore que c'est le 9 juin qu'on vote pour nos députés européens. Je vais me battre pied à pied, ça c'est notre boulot, dans la campagne avec Valérie Ayé.
Pied à pied, notamment face à des candidats qui sont en train de prendre de la place. On pense notamment à Raphaël Glucksmann. Par exemple, sur le sujet de l'immigration, ça n'est un secret pour personne que vous étiez opposé à la loi immigration votée en France, tout comme Raphaël Glucksmann, le candidat Parti Socialiste Place Publique. Est-ce que c'est votre seul point commun?
Sur l'Ukraine, par exemple, ce qu'a dit Raphaël Glucksmann de longue date, ce qui a d'ailleurs soutenu l'action de la France et de sa diplomatie et de son président, on a des convergences. Je ne vais pas chercher à caricaturer des divergences. Tant mieux, le Parlement européen d'ailleurs fonctionne comme ça, avec la droite ou avec la gauche, si sur certains grands sujets, il y a des points d'accord, mais il y a aussi des points de désaccord. De fond, et puis parfois d'approche politique. De fond, je pense justement au plan de relance. Raphaël Glucksmann ne l'a pas voté. Les polices européennes, Europol, qui coopèrent au sein d'une agence européenne pour lutter contre les trafics. Raphaël Glucksmann ne l'a pas voté, je le regrette. Idem sur le pacte asile et migration au niveau européen, qui je crois est utile, renforce justement ses contrôles aux frontières, en même temps qu'il prévoit de la solidarité dans l'accueil des réfugiés qui ont le droit à l'asile. Il ne l'a pas voté, alors même que les socialistes européens l'ont voté.
Mais et si vous parlez... avez des points communs, vous comprenez donc certains de vos électeurs, électeurs se tournent vers Raphaël Glucksmann aujourd'hui. Peut-être même vous, en d'autres temps, l'auriez fait.
Non, ça je ne crois pas, mais le sujet c'est de savoir quel est le projet européen pour les 5 ans qui viennent et quel est je le dis aussi, l'efficacité dans une période difficile du projet européen comporte. Est-ce qu'on a prouvé, avec Emmanuel Macron, avec Valérie Ayer, avec nos députés européens, qu'on pouvait changer l'Europe depuis 5 ans? Est-ce que c'est nous qui l'avons initié? Même quand il y a eu des points d'accord. La taxe carbone aux frontières, qui permet justement de défendre nos entreprises, notre transition écologique, pour que les entreprises chinoises ou américaines ne nous fassent pas une concurrence désastreuse. Ça a été voté par les socialistes européens et par une partie de la droite. Mais qui l'a initié? C'est la France d'Emmanuel Macron, et je pense que c'est une fierté. Donc, dire, dans une période difficile, donner ou laisser le volant à ceux qui n'ont peut-être pas tout bien fait, mais qui ont fait les grands choix fondamentaux, qui ont aidé l'Europe, qui l'ont réformée, ben je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir et de répondre à cette question pour le 9 juin.
Clément Beaune, question très concrète hier. Emmanuel Macron a beaucoup parlé de défense, de souveraineté en matière de défense européenne. On voit que les Français, les Allemands ont mis déjà longtemps pour signer ce futur char franco-allemand, projet lancé en 2017, finalement signé aujourd'hui, pour une livraison en 2035. Question très concrète, faut-il un dôme de fer antimissile en Europe, comme le président semble désormais le vouloir? Est-ce que c'est ça la bonne solution pour protéger l'Europe?
Le président a été délibérément prudent sur ce sujet. Il a dit, faut-il regarder, y réfléchir, peut-être. Pourquoi? Parce que c'est une proposition allemande qui pose beaucoup de questions. Je ne suis pas un expert militaire, mais beaucoup de questions techniques. Donc il ne faut pas donner l'impression qu'il y aurait une forme de, non pas de gadget, mais de protection immédiate qui serait disponible et qu'on n'aurait qu'à appuyer sur le bouton pour avoir un dôme de fer européen. C'est beaucoup plus compliqué que ça, compte tenu de l'étendue du territoire, de la nature des menaces et puis de la décision politique qui décide. Donc, en revanche, avoir des choses qui sont aujourd'hui engagées, mais qu'il faut amplifier. Un budget européen de défense qui permet d'augmenter nos équipements militaires et qui permet d'aider l'Ukraine. Avoir, et ça c'est une proposition très forte du président, une préférence européenne. C'est un changement de modèle total. C'est-à-dire acheter de manière souveraine et produire nos équipements de défense en France et en Europe et pas les acheter sur étagère aux Américains. On les aime bien, mais on n'est pas Américains, on est Européens. On veut pouvoir décider pour nous-mêmes de nos avions, de notre défense. Le premier sommet européen franco-allemand qu'a fait le président de la République le 13 juillet 2017, ça date pas d'hier, c'était pour lancer ces coopérations industrielles de défense avec l'Allemagne, le char et l'avion du futur. Ça met du temps, bien sûr, parce qu'on change un modèle, mais c'est nécessaire. Et là aussi, je crois qu'on a fait tôt des choix qui, avant même la guerre en Ukraine, n'étaient pas partagés à l'époque.
Et à cette époque, je rappelle que vous étiez conseiller Europe du président de la République.
Je vous le confirme.
Le 8-30 France Info, Benjamin Sportouche, Jean-Rémy Baudot.
Clément Beaune, je rappelle que vous étiez ancien ministre, aujourd'hui député de Paris, porte-parole de la campagne Renaissance aux européennes. On parlait de l'immigration, une loi a été votée en Grande-Bretagne pour délocaliser au Rwanda la gestion des migrants clandestins arrivés sur le sol britannique. Ça vous inspire quoi? Je souligne que l'Italie a fait peu ou prou la même chose avec l'Albanie. Est-ce que c'est ce qui nous guette?
Non, je crois que c'est une illusion en termes d'efficacité de lutte contre l'immigration illégale et de cynisme de court terme, un peu électoraliste. Il y a des élections au Royaume-Uni dans quelques semaines. Bon. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous allez renvoyer, si ça marche, des personnes qui demandent l'asile au Rwanda. Certains auront droit à l'asile et retourneront au Royaume-Uni. C'est ça les règles. Certains n'auront pas le droit.
C'est impossible, ça.
N'auront pas le droit à l'asile et devront être reconduits quelque part, mais ils ne sont pas rwandais. C'est un accord avec le Rwanda, précisément pour reprendre des gens qui ne sont pas rwandais. Vous croyez vraiment que c'est en déstabilisant, soit c'est anecdotique, on met que quelques personnes, soit c'est massif, en déstabilisant un pays d'Afrique qu'on va résoudre la crise migratoire à long terme, qui est un défi d'une génération, qui est un défi difficile, parce qu'il y a de la pauvreté, parce qu'il y a du changement climatique, parce qu'il y a de la misère.
Bon, le Danemark l'envisage, les Pays-Bas aussi, le Télévoutique, la France...
Mais c'est toujours au détriment des voisins, à un moment donné. Et penser que pendant quelques mois, on va mettre quelques personnes, parce qu'à mon avis, on parle de quelques personnes, dans un camp au Rwanda, et que ça va résoudre la pression migratoire, le problème migratoire, je crois que c'est une illusion. Contrôler les frontières de l'Europe, oui, et c'est ce qu'on fait, nous, en développant Frontex, cette agence de contrôle, et on a été les premiers à le faire, montant en puissance.
Puisqu'on parle de l'Europe, une directive sur la lutte contre la traite des êtres humains vient d'être modifiée par le Parlement européen pour y inclure l'exploitation de la GPA. Il se trouve que fin août, Clément Beaune, vous vous étiez déclaré favorable à cette légalisation de la gestation pour autrui, les mères porteuses. Est-ce que vous restez sur cette position?
Oui, mais je ne veux pas tout mélanger, parce que c'est très important, il y a une fake news complète qui circule. Le texte européen que vous citez, il n'a pas du tout dit que la GPA, c'est de la traite des êtres humains. J'ai même entendu certains de vos collègues journalistes le dire tel quel. C'est un mensonge complet. Le Parlement européen, il a dit, dans un texte sur la traite des êtres humains, qu'il y avait différents cas, y compris l'exploitation de la GPA quand on force une mère à porter un enfant. Quand des réseaux forceraient, ça peut exister, des mères à porter des enfants ou à commettre différents actes de traite. C'est pas du tout la GPA en tant que telle qui a été déclaré par le Parlement européen comme un acte de traite des êtres humains. C'est quand même très important de le rappeler, parce que certains se sont engouffrés dans cette brèche pour des raisons idéologiques. Ça, c'est une chose. Ensuite, le débat sur la GPA lui-même, un autre débat. Moi, j'ai donné une position personnelle que je maintiens. Je n'ai pas changé d'avis tous les 15 jours sur un sujet aussi fondamental. J'ai évolué, j'étais pas pour il y a quelques années. Je pense que pour des raisons d'équité, c'est important. Parce que, en fait, quand on a de l'argent, on peut le faire. Quand on n'a pas d'argent, on peut pas le faire. Mais il faut l'encadrer plutôt que ce soit une forme de pratique dévoyée. Et
Marion Maréchal, juste
là. Pardon, juste là-dessus. Mais je sais que ça n'est évidemment pas la loi. Et ça n'est pas la position, je le dis très clairement, de la majorité.
Vous iriez faire une GPA? Vous iriez contracter une gestation pour autrui?
Je ne commenterai pas ma situation personnelle sur ce point. C'est pas mon projet, pour tout vous dire. Voilà.
Marion Maréchal, qui est donc la tête de liste de Reconquête pour les Européennes, estime que la GPA est une pratique monstrueuse et honteuse. Elle réagissait, vous savez, aux critiques, les critiques auxquelles elle faisait face suite à son tweet sur l'annonce de paternité du designer français Jacques Mus et de son époux. Elle avait demandé où était la maman dans un tweet. Et donc elle dit aujourd'hui, la GPA, c'est une pratique monstrueuse.
Mais là aussi, il ne faut pas tout confondre. Marion Maréchal, elle a le droit d'avoir son avis sur la GPA. Je ne partage rien de ce que pense Marion Maréchal sur ce point non plus, mais elle a le droit d'avoir ce point de vue. C'est pas ça qu'elle a dit. Là aussi, il faut pas confondre les choses. On parle de famille, on parle de destin personnel, c'est lourd. Elle a dit « Où est la maman ?» Quand on dit « Où est la maman ?», ça veut dire qu'on sous-entend que dans tout couple ou toute famille où il y a des enfants, il faudrait qu'il y ait une maman. Bon, ça veut dire aussi qu'en faisant ce tweet, elle a critiqué, elle a insulté même, je crois, des couples homosexuels qui, par exemple, adoptent un enfant. Je rappelle aussi que quand on a recours à une GPA à l'étranger et que les enfants reviennent en France, on ne pénalise pas les enfants dans le droit français. Ils ont le droit de vivre leur vie, ils ont le droit de vivre avec leurs parents, même si c'est deux pères, ils ont le droit d'avoir un statut juridique, on ne va pas sanctionner les enfants.
Est-ce que la GPA devrait figurer dans le programme du candidat de votre camp en 2027?
On aura ce débat, vous connaissez ma position personnelle, je ne vais pas anticiper les choses.
Mais vous le souhaitez pour 2027?
Ce que je le souhaite en général, puisque je l'ai dit. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais ce qui me vraiment me préoccupe dans un débat sur la famille, sur des personnes, c'est qu'on confonde tout. Non, le Parlement européen n'a pas dit que la GPA, c'était de la traite. Oui, Madame Marion Maréchal a en fait eu un propos qui est une attaque contre, pas seulement la GPA, sinon elle aurait dit dans son tweet « je suis contre la GPA », pourquoi pas. Elle a eu, par insinuation, un propos que je crois est insultant et homophobe.
Clément Beaudelat, la chef de file des députés LFI, Mathilde Panot, est convoquée par la police pour, je cite, « apologie du terrorisme », même convocation que pour la franco-palestinienne Rima Hassan. LFI crie à la censure. Est-ce que cette convocation est justifiée, selon vous?
C'est pas moi qui décris ou décide les actes de police et de justice.
Derrière, il y a un peu la question de savoir est-ce qu'en tant que représentant politique, on a des limites dans l'expression.
On ne peut pas, par exemple, inciter à la haine si quelqu'un a un propos à la télévision, même si on est responsable politique, qui serait raciste, ouvertement antisémite, homophobe ou que sais-je, ça tombe sous le coup de la loi, évidemment. Mais pour répondre à votre question, moi, je ne suis pas pour qu'on ait une forme de pénalisation de la vie politique. Il y a une liberté d'expression qui s'inscrit dans des règles. Quand on trouble l'ordre public, quand on met en danger la vie des personnes, quand on incite à la haine, on doit répondre de ses actes. C'est important de le dire aussi. Responsable politique, il y a quand même le mot responsable. On n'est pas au-dessus des lois et on a même un statut particulier qui fait qu'on doit faire attention à ce qu'on dit. Mais pour être très clair, je ne suis pas fanatique de ces procédures-là et ça m'inquiète un petit peu.
Merci beaucoup Clément Beaune, député de Paris, porte-parole de la campagne Renaissance aux Européennes. Je rappelle que vous avez été ministre de l'Europe, puis des Transports. Merci d'avoir été l'invité du 830 France Info.